Bienvenue dans notre plateau radiophonique du jour en ce dimanche 17 mai depuis Port-Saint-Louis-du-Rhône et ce festival de la Camargue et du Delta du Rhône, 18e du nom. Le thème aujourd'hui, eh bien, ce sera vin et biodiversité avec nos invités, le contexte hein, pour vous situer un petit peu l'axe qui sera pris dans ce rendez-vous et les échanges que nous allons avoir avec nos invités. En Camargue, la viticulture évolue dans un écosystème riche mais fragile face au changement climatique, du choix du cépage, résistant à l'agriculture biologique, à la cohabitation avec la faune. Le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône invite eh bien, à découvrir les savoir-faire agricoles et à échanger avec les acteurs locaux, j'ai autour de moi. C'est le cas donc avec monsieur, je vais prendre la personne qui est la plus proche de moi, monsieur Renaud Deroux, à la tête, pas celle, parce que c'est une aventure familiale, du domaine de Latilon. Bonjour, prenez le micro, n'hésitez pas.
Bonjour.
À vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir Julien Henry, domaine Lille-Saint-Pierre. Bonjour.
Bonjour.
Et puis enfin, notre troisième invité, Nicolas Beck, du domaine du Petit Saint-Jean. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer avec vous, monsieur Deroux. Déjà, vous allez présenter tour à tour vos domaines, hein, pour donner un contexte à nos amis auditeurs. Et qui sait peut-être susciter des envies quant à la dégustation des breuvages. Je peux dire que j'en ai goûté 2 sur 3. Alors le troisième, je ne désespère pas, ça va peut-être se faire bientôt. Trêve de plaisanterie, monsieur Renaud Deroux. Donc le domaine Attilon, s'il fallait le présenter à nos amis visiteurs et auditeurs.
Oui, bonjour. Je suis Renaud Deroux, habitant sur l'exploitation au domaine de l'Attilon à Mastivert. C'est une très vieille propriété puisqu'elle figurait déjà au cadastre royal sous Louis XIV. Et par la suite, elle a suivi l'évolution des masses de Camargue, c'est-à-dire en polyculture et vignes. Et quand je me suis installé avec mon épouse sur le domaine en 1968, c'était une propriété qui avait appartenu à Jacques de Bourbon-Busset, l'académicien, écrivain académicien, qui ne venait là qu'une fois par an, au moment des vendanges, et puis qui après n'y mettait plus les pieds. Quand nous avons repris ce domaine, il n'y avait pas grand-chose, c'était très peu cultivé, mais ça a été finalement une bonne chose, puisque nous avons gardé à peu près un tiers de la surface en bois de chêne, et de chêne vert et de chêne blanc, puisque nous sommes en bordure du Grand Rhône, sur la rive gauche. Et donc c'est un biotope qui effectivement permet d'avoir ces arbres qui ne figurent pas partout en Camargue, où on rencontre plutôt des tamaris ou des oliviers de Bohême qui sont des plantes halophiles, c'est-à-dire qui ne craignent pas le sel. Mais là, nous, sur notre terroir, nous sommes exempts de sel puisque c'est les alluvions du Rhône qui, au fil des siècles, ont permis la culture, toutes les cultures possibles et imaginables. Mais nous nous sommes plutôt reconverti dans la vigne, qui n'existait que partiellement au départ, puisque de 7-8 hectares de vigne, nous sommes passés maintenant à 90 hectares. L'histoire du domaine, c'est ce que je viens de vous dire, mais nous avons fait une évolution quand même en 1983. De 68 à 83, nous avons été en culture traditionnelle, conventionnelle, et en 1983, j'ai eu, j'allais dire, une illumination. Et nous sommes passés au bio en 1983, ce qui fait que je peux dire que je suis un peu le grand-père de la bio. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé?
Attendez, vous allez tout nous raconter. Moi, j'ai quelques questions à vous poser. Il ne faudrait pas que vous me décliniez tout et qu'à la fin, je dise, il a tout dit, j'ai plus rien à lui demander. On va passer à votre voisin pour l'île Saint-Pierre. Donc, c'est à vous de nous présenter un petit peu votre domaine, Julien Henry.
Donc, moi, je suis vigneron aussi à Mastivert. Ça s'appelle l'île Saint-Pierre parce qu'on est sur une île du Grand Rhône, donc aussi sur la rive gauche. Aujourd'hui, c'est une exploitation où on a un peu plus de 200 hectares de vignes. Une exploitation, je suis à 4e génération, j'ai mon petit frère maintenant qui travaille aussi avec moi. Et c'est une exploitation qui a été créée par nos arrière-grands-parents et arrière-grand-oncles et tantes à l'époque où il y avait beaucoup de vin qui arrivait d'Afrique du Nord. Et c'était un point stratégique pour Saint-Louis, étant le deuxième plus grand port d'entrée en France des vins d'Afrique du Nord. Il s'était installé là. Ils produisaient du vin ici, donc au bord du Rhône, parce qu'il y avait l'eau et qu'on pouvait planter de la vigne et résister au phylloxéra en inondant les vignes pendant l'hiver. Et voilà, donc le domaine ensuite a évolué au fur et à mesure des générations. Quand mon père a repris l'exploitation dans les années 80, il y avait 70 ou 80 hectares de vignes. Et puis petit à petit, on est remonté. Aujourd'hui, on a à peu près 200 hectares de vignes. Et on a un label qui est Vigneron Engagé, donc le premier label RSE de la viticulture.
Merci de cette présentation. Enfin, à vous, Nicolas Beck. Le domaine du Petit Saint-Jean, je vais quand même préciser, vous allez peut-être le dire dans votre propos, qui est rattaché à la Tour du Valat, bien sûr.
Oui, c'est donc un domaine qui appartient à la Fondation Tour du Valat, qui est basée en Camargue. Et donc, l'objectif est vraiment l'étude et la conservation des zones humides méditerranéennes. À ce titre-là, on nous a légué un domaine qui est de l'autre côté du Petit Rhône, en petite Camargue ardoise, qui s'appelle le domaine du Petit Saint-Jean, et qui totalise 101 hectares de milieux naturels, de pinèdes à pimpignons et d'anciennes friches agricoles. Voilà. Et contrairement, et ce qui nous distingue un peu effectivement par rapport au domaine précédent, c'est qu'on a très peu de vignes. Hein. On a 5 hectares de vignes qui ont été plantées à partir de 2016. Et à cette culture qu'on souhaite un peu centrale, pivot, on a rajouté effectivement plein d'autres ateliers de production. On travaille avec des éleveurs autour de l'éco-pastoralisme ou du silvopastoralisme. On a donc un troupeau de bovins qui résident sur site une grande partie de l'année. On a des chevaux. On a notre propre troupeau de bovins également, d'ovins, pardon. À ça, on rajoute des ateliers en agroforesterie. On fait un peu de plantes aromatiques médicinales, un tout petit peu de maraîchage. Donc, en fait, c'est plein de petits ateliers tests un peu. Et on est vraiment dans ce qu'on prône à la Tour du Valat, de tester des choses pour les repliquer, pour donner des idées aussi sur le territoire. Et notamment aussi dans un contexte de changement climatique qu'on évoquera un peu plus tard, mais qui est de plus en plus impactant sur nos activités agricoles.
Ouais, on parlera des problématiques qui vous concernent, puisque vous avez trois cas de figure, hein, trois territoires qui ne sont pas si éloignés que ça, mais chaque fois avec des contraintes ou des bénéfices en fonction, bien sûr, du territoire en question. On parle de biodiversité. Moi, j'ai envie de savoir, pour chacun d'entre vous, ce que ça veut dire, biodiversité, quand on est bien à la tête d'un domaine viticole. On va commencer avec le domaine Attilon. Pour vous, ça évoque quoi, la biodiversité ?
Eh bien, écoute, pour nous, pour moi, effectivement, la biodiversité, c'est maintenir la faune et la flore déjà existantes, qui est assez, même plutôt riche dans cette partie de la Camargue, puisque nous avons toute la faune qui est présente habituellement, mais également des oiseaux migrateurs qui viennent nicher sur l'exploitation, comme le rollier, par exemple, qui nous vient d'Afrique, ou le guépier. On a aussi des espèces autochtones. Je parlerai des espèces comme les perdreaux rouges ou les lièvres. Et on a même encore un ou deux couples de canne-petière, qui est la petite outarde, et qui se font de plus en plus rares, malheureusement.
Et qu'on trouve en général sur la plaine de la Croix. Hein.
C'est plutôt effectivement le domaine de la Croix, mais nous sommes à vol d'oiseau à 4 km de la Croix. Ce qui explique que de temps en temps, il y a des oiseaux qui viennent de la Croix jusque chez nous. Et qu'on essaie de conserver, évidemment, dans le cadre du biotope que nous avons maintenu, puisque l'exploitation a encore 30% de terre, de bois, de bois de chêne, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que nous avons pieusement conservé, justement, pour arriver à conserver cette biodiversité du terroir. C'est ce qui est... Nous sommes plus ici dans les grandes plaines de l'Île-de-France. Nous avons un territoire qui est assez morcelé avec des haies, des bocteaux, de différentes espèces. On implante de nouveau des haies, quoiqu'on en a déjà suffisamment, mais avec le parc de Camargue, on a installé des haies depuis 2 ans, mais avec des espèces variées, aussi bien l'aubépine que d'autres arbousiers, etc. Et ce qui nous permet d'avoir quand même, de conserver quand même cette faune et cette flore spécifique à notre terroir.
Ouais, on sait qu'avec les haies, vous attirez justement insectes, oiseaux et donc en fait toute la chaîne alimentaire qui gravite autour de cela. Et vous nous parlerez éventuellement des bénéfices que vous avez pu observer. L'île Saint-Pierre, comment vous imaginez cette biodiversité ?
On est déjà dans un milieu très spécifique et très agréable. Moi je suis la quatrième génération. Chaque génération a amené sa pierre à l'édifice, mais on a un environnement qui est chouette et qu'il faut arriver à laisser aux générations suivantes. Le contexte économique de la viticulture au fur et à mesure des années a fait qu'on s'est spécialisé dans la viticulture. Aujourd'hui, on est quasiment exclusivement sur la partie vin, mais il reste quelques terres disponibles sur lesquelles on va avoir un petit peu de diversité dans les cultures. Et puis, on a aussi des accords avec des voisins, des confrères. Pendant l'hiver, on a des moutons qui viennent pâturer dans la vigne. On a des chevaux, il y a aussi quelques vaches. Donc on essaye de garder cet équilibre. La vigne toute seule fonctionnerait peut-être, mais l'idée, c'est d'arriver à la faire fonctionner avec tout le reste. On retrouve sur les noms des parcelles de l'exploitation dont j'ai hérité. On a la parcelle des lapins, la parcelle des castors, la parcelle des garennes, et toutes ces parcelles-là, elles sont nommées comme ça parce que il y a les figuiers aussi, parce que c'est les variétés d'arbres ou les animaux qu'on peut arriver à trouver sur ces parcelles et qu'on continue à trouver. On a toujours des castors dans le bras du Rhône, donc c'est difficile de les voir, mais ils sont là.
Bon, et en ce qui concerne le domaine Petit Saint-Jean,
Nous, notre approche, elle était effectivement, notre corps de métier, c'est l'étude de la biodiversité, hein. Donc c'est vraiment l'ensemble des organismes qui peuplent un milieu. Donc nous, on est rentré sur ce domaine en ayant effectivement une vision plus écologique. Et l'idée, c'était de remettre en place une activité agricole qui existait jadis sur ce domaine, mais un peu de façon différente et surtout avec une entrée de conservation de la biodiversité et de montrer que l'activité agricole n'est pas forcément incompatible avec la protection de la nature et l'accueil d'une biodiversité. Donc la biodiversité, nous on l'entend effectivement déjà au niveau de la vigne, hein. On a 13 cépages différents sur 5 hectares, donc c'est des toutes petites parcelles de 3000 m2, donc on est vraiment aussi dans une approche avec des cépages plus méridionaux d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Géorgie, des cépages résistants aussi, les nouveaux cépages, donc déjà ça, on a une biodiversité au niveau culturel, hein. Le fait de rajouter là des animaux, des brebis, des moutons, donc là aussi il y a des impacts qui sont différents. Et après, vraiment, on essaye de suivre et d'augmenter la valeur biologique des parcelles. Alors c'est aussi bien dans le sol, hein, en faisant, je ne l'ai pas dit, mais on est bien sûr en agriculture biologique, donc on cherche vraiment à protéger le sol qui est vraiment la base, en limitant les intrants bien sûr chimiques, en limitant même les produits qui sont utilisés en agriculture biologique, parce qu'ils peuvent aussi être incompatibles avec une certaine biodiversité, notamment de fongicides, hein, et quand on sait que les champignons, c'est la base de la vie dans le sol, donc on a des approches comme ça de conservation des sols, de protection de la biodiversité dans le sol. Et après, c'est bien sûr aussi cette biodiversité qu'on rencontre dans les prairies, dans tous les milieux autour, sachant qu'effectivement, nous, l'activité agricole, elle est sur un tiers de la surface. Voilà. Et que, donc on a la chance d'avoir un site très très diversifié. On a des, comme sur les autres propriétés, des zones humides, on a des bois, des unités plus sèches, des unités qui sont en eau une grande partie de l'année. En fait, tout ça, c'est vraiment une biodiversité exceptionnelle, et à cette biodiversité de milieu est aussi liée une biodiversité d'espèces, bien sûr.
Vous essayez avec le choix et la façon, la méthode qui est la vôtre, de tirer parti justement de cette biodiversité pour partager l'information ensuite avec d'autres agriculteurs, viticulteurs, des personnes qui travaillent cette terre et ce territoire avec le fruit de vos recherches, de vos expérimentations, comme vous avez dit.
Oui, tout à fait. C'était un des objectifs principaux de ce projet-là, c'est d'être un peu une vitrine de ce qu'on peut faire et des problèmes aussi qu'on rencontre. Hein. Voilà, tout n'est pas simple. Au quotidien, on essaie de résoudre les problèmes du lendemain. Donc, néanmoins, on a des petits cas où, effectivement, on a eu des viticulteurs. On fait partie d'un certain nombre de réseaux. Ou des viticulteurs qui n'ont pas forcément eu le temps de réfléchir à la création de haies, et de la composition de haies, qui sont venus, qui nous ont repris les plans de plantation, et 8 jours après, ils avaient planté le même type de haies chez eux. Donc on essaye aussi effectivement d'être en relation au niveau du territoire avec tout un réseau d'agriculteurs, de viticulteurs.
Vous parlez de ces haies justement pour expliciter ça au niveau de nos auditeurs. Quel est l'intérêt de la haie? C'est pas de morceler des parcelles, c'est pas de faire des choses plus petites, plus cosy, plus sympathiques. Il y a un bénéfice pour le viticulteur.
Nous, le bénéfice, il est vraiment multiple. Hein. On a déjà, on a réfléchi des haies en fonction de leur utilité. On a des haies brise-vent, on a des haies fruitières qui nous rapportent, nous, des ressources. Hein. On parle de coings, de poires, de pommes, d'oliviers qu'on a intercalés le long des vignes, par exemple.
Ça, c'est l'agroforesterie, ça, non?
C'est une déclinaison de l'agroforesterie. Après, on peut aller beaucoup plus loin parce que nous, on est restés assez prudents. On les a mis en bord de parcelles. Mais maintenant, on a des viticulteurs qui vont replanter des arbres à l'intérieur même des parcelles. Je pense à des domaines comme l'Enclos de la Croix à Lansargues où eux sont venus rajouter des arbres dans les systèmes. Alors ça complique effectivement certaines pratiques hein, quand on vendange avec des machines, mais tout se réfléchit en fait. Hein, donc on garde des écartements et c'est une déclinaison de l'agroforesterie. Donc on a des haies de différentes natures, hein, on a des haies de biodiversité où effectivement on s'est que voué à l'accueil des oiseaux, des insectes, des micro-mammifères. Et puis on a ces haies de production hein, où vraiment derrière on a en se disant bah on met des espèces principales qui vont à terme produire quelque chose que l'exploitant peut valoriser ferme ouais. Et entre les arbres on peut mettre des espèces qui sont plus des espèces compagnes de bourrage en fait, ça peut être des petits buissons, des lavandes, où il y a vraiment un intérêt pour la biodiversité.
Ouais, sur le domaine de l'Isle-Saint-Pierre, on va dire, parce que vous avez une des agricultures les plus conventionnelles par rapport à vos camarades, vous avez parlé quand même de cette diversité hein, de proximité avec d'autres types de pratiques qui bénéficient a priori aussi à votre environnement direct. Il y a une problématique pour vous parce qu'on parlait de praticité, pas pratique,
alors,
d'intérêt.
C'est sûr que c'est pas toujours pratique dans la conduite de la vigne, mais voilà, les parcelles sont de toute façon entourées, donc on peut mettre des haies autour. On participe depuis plusieurs années maintenant à au programme de reboisement de la Camargue avec le parc de Camargue. Et où on travaille sur des haies avec des variétés différentes d'arbres pour justement essayer d'avoir de la biodiversité pour y accueillir la faune environnante. Voilà. Après les haies, elles nous aident, on en a aussi besoin pour la viticulture, on est dans un pays très venteux, alors aujourd'hui il y a un peu de vent mais ça nous arrive d'en avoir beaucoup plus, donc on a aussi besoin de ces haies qui vont briser le vent, qui vont protéger la vigne. Donc c'est un milieu qui fonctionne en interaction. On a pas mal de bois aussi le long du Rhône. Donc on a la Ripisylve côté du Grand Rhône. On a pareil des bois le long de la Laune. Et tout ça, c'est des zones qu'on protège et qu'on surveille, qu'on entretient pour arriver à les conserver au mieux.
Vous parliez tout à l'heure du fait d'inonder les vignes à une certaine époque de l'année pour lutter contre le phylloxéra. C'est aussi une manière de ne pas avoir de produits entrants pour traiter les vignes, pour lutter contre notamment cette maladie.
Alors aujourd'hui, on n'a plus de vignes en plan direct depuis peut-être une dizaine d'années maintenant. Donc on a toutes les vignes sont sur porte-greffe, des porte-greffes d'origine américaine qui, eux, ne souffrent pas du phylloxéra. Donc on n'inonde plus les vignes pour ça. Ça avait aussi un inconvénient d'inonder les vignes, c'est qu'on tuait l'insecte du phylloxéra, mais pas que. Donc on limitait la biodiversité du sol. Donc c'est tous ces équilibres qu'on apprend d'une génération à l'autre. On trouve des solutions et on fait évoluer ça. Aujourd'hui, on amène de l'eau aux vignes, mais différemment. On a mis des gouttes à gouttes enterrées, ce qui nous permet de réduire l'apport d'eau de plus de 30%, par exemple, par rapport à un goutte à goutte aérien. Donc c'est les choses auxquelles on pense en permanence.
Et alors là, je vais vous citer le témoignage d'un agriculteur qui était entre autres producteur de foin, mais il m'a dit, mais pas que, puisqu'il me parlait de système goutte à goutte, j'imagine que ça a bien évolué. Il m'a dit, ça a un avantage, mais c'est un gros inconvénient, c'est qu'on n'amène pas assez d'eau pour recharger les nappes phréatiques. Bon, là, vous êtes au bord du Rhône, je ne pense pas que ce soit la même problématique.
Ah, quand même, les premiers goutte à goutte que mon père a mis dans les vignes, c'était plus pour. C'était pas automatiquement pour amener de l'eau aux vignes pour les faire produire plus, c'était plus pour se protéger du sel, pour arriver à réguler le niveau de sel dans le sol. On est à 20 km de la mer par le Rhône et il y a toute une partie de l'année où le Rhône est salé à la hauteur de chez nous. On va pouvoir pêcher des poissons de mer dans le Rhône. Donc le sol est salé. Donc ça fait aussi partie de cet équilibre. C'est arrivé à faire pousser la vigne dans un milieu qui de temps en temps lui est hostile.
On en parlera avec votre camarade qui est juste à côté, mais je vais faire intervenir le domaine Attilon de ces problématiques de remontée de sel. Le domaine Attilon, parce qu'on a l'impression que vous êtes dans le cas de figure le plus idéal. Il y a des bois, il y a un petit peu d'autres types de cultures, vous êtes en bio. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail à faire, tout va bien, vous avez le schéma idéal ou il y a quand même des contraintes et il va falloir s'habituer, diversifier, recréer des... Vous en êtes où ?
Alors, c'est vrai que l'idéal, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'il y a toujours des transformations, des évolutions qui se font et que nous suivons ou que nous devançons, si nous pouvons, mais la vérité n'est pas toujours toute faite. Aussi, actuellement, effectivement, il n'y a pas que de la vigne. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais nous avons des cultures de céréales, d'oléagineux. Autrefois, c'était il y a quelques dizaines d'années, je faisais beaucoup de cultures légumières aussi. Mais ces cultures légumières qui nécessitaient beaucoup d'intrants, de pesticides, finissaient par me rendre malade. C'est pour ça que je suis passé à la bio d'ailleurs, parce que je ne supportais plus ces pesticides, fongicides et autres. Je me rappelle, il y avait un produit qui s'appelait le diméthoate, mais... quand on avait traité, on avait envie de vomir tellement c'était désagréable. D'ailleurs, le diméthoate a été interdit en France, sur la culture des cerises par exemple, ce qui n'est pas le cas de nos voisins qui nous importent leurs cerises farcies de diméthoate.
C'est vrai, il y a un manque d'harmonie, on connaît la problématique bien entendu. Et du coup, vous dites, voilà, rien n'est simple, il y a toujours idées à prendre quand on parle du petit Saint-Jean qui fait des recherches et tout. Vous vous inspirez aussi de choses qui se font en disant, je reste dans l'optique qui est la mienne, bio, ça me va bien, mais il y a des trucs à faire.
Alors, c'est vrai que si on reste toujours dans son standard, eh bien on périclite. Donc il faut toujours effectivement une recherche, il faut toujours évoluer. Regardez à droite et à gauche les voisins, parce qu'il y en a qui sont en avance, qui sont performants. La Tour du Vala, avec M. Hoffmann, a effectivement amorcé et maintenant développé cette évolution. Ça a fait beaucoup de bien, je pense, à la Camargue qui est restée un peu traditionnelle. Je suis pas contre les traditions, bien au contraire. Mais c'est vrai qu'il faut une évolution et regarder ce que les autres font pour pouvoir suivre s'ils le font bien. Et s'ils ne le font pas bien, ben évidemment, on change de méthode. Mais en général, on en tire toujours quelque chose de valable.
Ouais, s'il y avait un exemple, justement, pour expliciter, cette évolution de dire, ah tiens, on a toujours fait comme ça, mais là, il y a une technique qui semble pas mal et qu'on va utiliser. Il y a quelque chose qui est arrivé ces dernières années où vous êtes en train de mettre en application ?
Alors, la dernière application qu'on a eue, c'était l'implantation de haies, effectivement. Et avec le parc de Camargue, et qui nous ont fourni des plans et que nous, on a plantés avec eux et que pour une évolution. Pour quoi faire ? Ben, pour protéger un peu la vigne du vent, effectivement, mais surtout pour garder la faune qui existait et qui habituellement se réfugient plutôt dans les haies que dans les cultures cultivées, parce que les cultures cultivées, même en bio, on est obligé de traiter avec certains produits, des produits biologiques bien entendu, et non pas des produits de synthèse, mais c'est le milieu est moins favorable que pour une haie par exemple.
Et donc on leur laisse un habitat et comme ça ils vous laissent tranquille, vous, voilà, dans vos cultures.
C'est le but.
C'est le but, on ne fait pas toujours de concurrence. On parlait de ces remontées de sel, c'est vraiment un des grands défis qui se présente à vous, hein, sur le domaine du Petit Saint-Pierre.
Oui, c'est la ferme agroécologique du Petit Saint-Jean.
Voilà. Oui, Saint-Jean, oui, Saint-Pierre,
c'est
excusez-moi,
le domaine Saint-Pierre,
ouais. Je me suis trompé de...
Ouais. Avant de parler salinité, je voudrais juste rebondir sur la question que vous aviez posée à M. Deroux. C'est, en fait, moi j'ai vraiment en tête, et quelque chose qu'on essaie d'appliquer, comment on utilise effectivement la biodiversité en milieu agricole pour résoudre des problèmes. C'est simplement... dans la vigne, vous avez des ravageurs, hein, comme sur toutes les cultures, et il y a notamment les vers de la grappe. C'est des petits papillons qui vont pondre sur les grappes de raisin, dont la chenille va se développer et qui peut, parce qu'en fait elle va piquer les grappes, il y a un écoulement derrière de sucre, et derrière on peut avoir des foyers de moisissures assez conséquents. En conventionnel, effectivement, il y a une pratique, c'est d'éliminer ces larves, ces chenilles, par un traitement chimique. En bio, vous avez le droit d'utiliser la confusion sexuelle. C'est par exemple, vous mettez des hormones, on le voit souvent dans les vergers. C'est quelque chose qui marche très très bien. Ceci dit, ça reste de la chimie, c'est des plastiques, c'est des petites fioles qu'on accroche, c'est de la main d'œuvre qui est assez conséquente, et au final c'est un prix à l'hectare qui est proche de 1000 euros maintenant. Voilà. Nous on a pris le pari de dire bon, on va travailler les chauves-souris à la place de ces molécules chimiques, et donc on a équipé tout le vignoble de gîtes pour les chauves-souris. Et on a installé une trentaine de gîtes. Il y en a qui sont en construction sur un des ateliers, j'ai vu tout à l'heure.
Et ça, c'est une action que vous avez menée il y a longtemps ou vous êtes
Il y a 4 ans maintenant. Voilà.
Et vous avez vu l'impact?
C'est derrière, en fait, maintenant. Alors, il y a un guillemet, c'est que nous, on vendange de façon manuelle. Donc, si on retombe sur quelques foyers de pourriture, on peut s'épargner de les récolter. On coupe, ça tombe au sol et ça réintègre le cycle. Mais c'est vrai que depuis 4 ans maintenant, on n'achète plus ces hormones de confusion. Et derrière, on a essayé de suivre si potentiellement c'était les chauves-souris qui pouvaient. Et c'est vrai que tous les gîtes, en fait, on a 100% d'occupation. Et c'est des pratiques qui se développent, hein, dans certains vignobles, dans les costières de Nîmes. De plus en plus, on voit ces gîtes le long des haies, dans les parcelles agricoles aussi, dans le Var aussi. Enfin, il y a vraiment une dynamique. Ça a été aussi testé sur d'autres cultures, notamment le riz dans le delta de l'Èbre, où pareil, on a généralisé les gîtes pour les chauves-souris. Et derrière, il y a vraiment un service qui est rendu par cette biodiversité sur les cultures.
Ouais, j'en reviens à ma question, donc sur ces remontées de sel, qui est un des défis majeurs, hein, qui se présente à vous, d'après ce que j'ai compris, parce que vous m'avez expliqué qu'il y a un déficit de pluviométrie, et donc ce qu'on parlait bien de goutte à goutte, avec qui permettait de faire redescendre les remontées de sel, vous n'avez pas ce bénéfice, parce qu'il n'y a pas assez de pluie, tout simplement, quoi.
Nous, on est d'autant plus soumis à ce problème, effectivement, qu'on est sur un territoire qui est un peu différent. On est donc sur cette grande dune qui va du Petit Rhône jusqu'à Aigues-Mortes. Hein. C'est une grande dune, au final, d'origine marine. Quand on travaille le sol et qu'on suit, on tombe régulièrement sur des coquillages. On est sur des sols à 85% de sable, donc très sableux. Et ce passif marin, en fait, a laissé effectivement... du sel en profondeur, qui jusqu'à présent était au fil des hivers et des printemps pluvieux. Alors cette année on a une exception, hein, mais c'est vrai que cette nappe d'eau, l'apport d'eau douce permettait de maintenir ce sel en profondeur. Et là depuis maintenant quelques décennies, on a quand même des étés de plus en plus chauds, des pluies qui ont tendance à se limiter, hein. On est plutôt sur en termes de régime de pluie, on est plutôt sur quelque chose qui caractérise le climat semi-aride, hein, donc sud de l'Espagne, nord du Maroc, avec moins de 400-450 mm d'eau par an, alors que le climat méditerranéen était plutôt entre 600 et 800, avec parfois des pics, mais parfois aussi moins d'eau. Mais actuellement, on est plutôt dans quelque chose qui a tendance à se tendre. Et donc, ce sel qui est en profondeur va remonter par capillarité, à tel point qu'en 2021, sur l'appellation sable de Camargue, hein, donc c'est tout le vignoble qui est installé aux portes d'Aigues-Mortes et autour d'Aigues-Mortes, qui totalise 3000 hectares, il y a 600 hectares en une seule année qui sont morts liés à ces remontées de sel.
Ça veut dire
20% de l'appellation. Et nous, on est exactement dans les mêmes proportions. Donc on était parti de 5 hectares de vignes sur des toutes petites parcelles. On est plutôt maintenant entre 3,5, 3,8, avec des zones où, même s'il y a une production de raisin, derrière, on ne récolte plus parce que le raisin
est salé
et impropre à la vinification.
Vous avez les mêmes problématiques, parce que vous nous avez parlé de ces remontées de sel au niveau du domaine Saint-Pierre, l'île Saint-Pierre.
Les problèmes de sel, on les a. On travaille depuis longtemps maintenant à essayer de trouver des solutions. Pendant très longtemps, les inondations de l'hiver permettaient de descendre le sel. Donc on a évolué, on a changé, et aujourd'hui la solution c'est le goutte à goutte. On a commencé les premières implantations de goutte à goutte dans les années 2000-2010. Aujourd'hui on doit avoir un peu plus de la moitié du vignoble qui a du goutte à goutte enterré et donc sous le rang, ce qui fait qu'on amène l'eau directement dans le bulbe racinaire de la vigne. Et ça lui permet de vivre comme ça. Donc c'est des choses, on va aussi travailler sur les porte-greffes. Il y a des porte-greffes qui résistent mieux au sel. Alors c'est pas la solution parfaite, parce que quand le taux de sel monte trop, il n'y a plus aucune plante qui va pousser. Mais par contre, voilà, il faut arriver à trouver ces équilibres.
Vous avez aussi des pertes sur des zones qui ne sont pas équipées de ce système de goutte à goutte?
Aujourd'hui, on a des terres. Alors, les terres de bord du Rhône, elles sont un peu plus hautes et souffrent moins de ça. Dès qu'on s'éloigne du Rhône, on a des terres qui sont de plus en plus basses. Et quand on s'approche des terres basses de Camargue, qui pour certaines sont même en dessous du niveau de la mer, c'est des terres qui sont impropres à la culture de la vigne. Après, c'est historique en Camargue, ça a toujours été. Il y avait le modèle des exploitations, il y avait les cultures avec des racines profondes en bord de fleuve. Et puis plus on s'éloignait du fleuve, moins on avait de racines profondes et on finissait avec les marais et l'élevage. Donc c'est quelque chose qui est connu en Camargue. L'évolution des cultures fait que on le vit différemment et on travaille différemment. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. Ça s'accentue, c'est sûr. Et il faut arriver à trouver les solutions. Et on recherche sur des variétés de vignes qui seront un peu plus vigoureuses, qui vont mieux supporter ça. Mais dans le temps, si on n'a pas des solutions pour apporter de l'eau douce, c'est pas possible de faire pousser la vigne dans des terres salées.
Qui résiste, mais qui malgré tout n'apprécie pas trop la présence du sel, quoi qu'il arrive, hein, on le rappelle. Vous n'avez pas du tout cette problématique sur le domaine Attilon, puisque vous avez bénéficié de ces alluvions du Rhône.
Oui, parce que nous sommes sur les terres du bord du Rhône, et la propriété est uniquement le long du Rhône et ne s'étend pas vers l'intérieur. Ce qui fait qu'on n'a pas de problème de sel, encore que, comme l'a souligné tout à l'heure le domaine du Petit Saint-Jean, nous avons des endroits où maintenant il commence une ou deux parcelles les plus éloignées du Rhône, où on commence à revoir des remontées de sel, ce qu'on n'avait pas autrefois. Pourquoi ? Parce que je tiens à jour une pluviométrie annuelle, et je m'aperçois que de nos jours, on a des années avec 250 mm d'eau uniquement. On avait passé 2-3 ans comme ça, entre 250 et 300, ce qui est très peu. Et alors qu'autrefois, dans les années 70, on avait une pluviométrie qui était de l'ordre de 600 à 700 mm, et on n'avait pas du tout ces problèmes-là.
Ouais, c'est une pluviométrie quasiment divisée par deux, quoi.
Le 200 mm de pluie, c'est ce qui tombe dans le Sahara tunisien.
Voilà, ça nous donne une idée, c'est assez incroyable. Et alors là, je vais faire une question, mais vraiment bateau gag. vous avez pensé à passer à une autre culture plus, on va dire, qui viendrait du nord du Maghreb, palmiers, dattiers, je fais exprès de forcer le trait, mais voilà, est-ce qu'on se dit que dans les décennies à venir, il va falloir à changer de type de culture, dire bon bah le vin ça sera peut-être plus pour nous, et passer à autre chose qui semble exotique aujourd'hui, mais qui sera peut-être commun d'ici quelques décennies ou centaines d'années?
Oui, alors effectivement, on est en train d'y réfléchir, mais c'est pas évident. Je me suis intéressé par exemple à la culture du pistachier. En ce moment, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se penchent sur la question. Il y a quand même une problématique, c'est que le pistachier ne produit qu'au bout de 8 ans. Donc pendant 8 ans, il faut tenir le coup. Alors quand on vit de l'agriculture, c'est pas toujours évident. Mais effectivement, on est à la recherche. Avec mon fils, on s'est intéressé aux agrumes à un moment donné. Mais là aussi, il y a des contraintes. Et bien, l'agrume, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut beaucoup d'eau. Alors, comme on est au bord du Rhône, c'est pas un problème, effectivement. Encore que l'eau du Rhône, comme l'a souligné Julien, l'été, il y a des remontées de sel et il y a des périodes où on ne peut plus pomper dans le Rhône. En plus de ça, il y a une question aussi que les voies navigables de France du Rhône nous imposent des quotas maintenant, ce qui n'existait pas. Moi, quand j'ai débuté, je pompais ad libitum dans le Rhône. Maintenant, on m'a imposé un nombre de mètres cubes que je dois payer, etc. Donc, tout ça, c'est une évolution qu'il faut prendre en compte. Ouais, et c'est pas évident. C'est pas évident du tout.
Ce déficit de pompage, il participe justement à quelque part ces remontées de sel, parce que du coup, vous ne pouvez plus mettre autant d'eau que vous le désirez pour mener vos cultures en fonction des circonstances.
Oui, par exemple, moi, j'ai une autre propriété où je fais du riz. Des terres basses où on ne peut faire que du riz. Mais à l'Attilon, je peux pas faire de riz parce que je suis limité en eau. Et en plus de ça, l'été, si j'ai des remontées de sel, arroser avec de l'eau salée, c'est pas bon pour les sols, évidemment, ni même pour la culture. Donc, il faut rechercher en permanence quelque chose. Si on veut changer de culture, il faut bien l'étudier avant de se lancer. On peut pas faire n'importe quoi.
Oui, on a qu'une chance de réussir, quoi. C'est ça, grosso
modo. Exactement, parce que quand même, nous sommes agriculteurs. C'est un métier dont on vit. Il faut quand même un minimum de rentabilité pour nous et les gens qui travaillent avec nous.
Oui, on rappelle que vous êtes des pourvoyeurs d'emplois, bien entendu, sur ce territoire. Vous réfléchissez à l'avenir, entre guillemets, puisque c'est générationnel, hein, on le rappelle, 4 générations, c'est ça ?
4e génération, c'est ça. Évidemment, on réfléchit à l'avenir. Chaque génération a pensé à l'avenir. Voilà, aujourd'hui, la vigne reste notre culture principale. Je ne sais pas vraiment où on ira. De toute façon, ce n'est pas des choses qui vont se faire rapidement. Il y a une échelle de temps qui est importante. Donc, on peut commencer à réfléchir à ça. C'est les générations suivantes qui verront les évolutions. Voilà, le débit du Rhône qui est l'origine de ces problèmes de sel diminue chaque année. Le Rhône est dépendant, son débit est dépendant de la taille des glaciers. Les pluies, c'est une chose. Les pluies, ça nous permet de lessiver les sols. Ça a un impact sur les crues du Rhône, donc sur les variations rapides du fleuve. Mais le débit moyen du fleuve est totalement dépendant des glaciers. Les glaciers diminuent, donc de toute façon, il y aura de moins en moins d'eau dans le Rhône. Donc il faut réfléchir à l'avenir. Comment aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un a la solution.
Alors, je vous pose des questions, mais en même temps, on le voit, vous êtes tout azimut en déclinant les variétés de cépages et puis d'autres expérimentations avec de l'élevage autour de chez vous. Il y a des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière caricaturale, un petit peu plus exotiques auxquelles vous réfléchissez pour l'avenir ?
Oui, on est vraiment sur cette démarche-là. Hein. Donc, c'est vraiment pour compléter les propos. Déjà, on est sur d'associer des cultures. Hein. Donc, l'agroforesterie, les choses que nous on teste, c'est d'associer de l'arbre. Donc, on a un dispositif sur 4 hectares. On appelle ça les pré-vergers, où effectivement, on va associer de la grenade, de la pistache, des oliviers, des amandiers, des packs miniers avec des densités très faibles, Ces parcelles-là sont fauchées régulièrement, donc entre les arbres, on va récolter une ou deux récoltes de foin. Et puis en hiver, on va faire pâturer ces surfaces. Donc plutôt que d'avoir une seule ressource à un moment donné avec une seule espèce, un verger monospécifique, déjà là on a 5 variétés, 5 arbres, des essences différentes. On fait du jus de grenade, on fait des amandes en vrac.
La pistache, vous produisez?
La pistache, alors le gros souci, c'est effectivement, on les a plantées en 2016. On a les premières fleurs, voilà, donc c'est très très long. Et puis on était aussi, bon, on a peu d'arbres, hein, on a une 70 arbres. Et à l'époque, on a directement commandé à des producteurs en Sicile. Actuellement, il y a d'autres producteurs qui font des variétés beaucoup plus adaptées. Les Espagnols sont passés maîtres. Et donc, c'est des cultures, effectivement, qui, je pense, vont amener à se développer dans le secteur. Parce qu'il y a des variétés, effectivement, qui sont un peu plus tolérantes au sel. Alors, quand je parle tolérant, c'est pas du tout adapté à des sols salés, hein. Au-delà de 2 grammes de sel par litre d'eau, vous pouvez plus faire de la culture, ni du riz, ni de l'arboriculture. Donc, on va essayer quand même de travailler sur les agrumes, pareil, hein. On est en collaboration avec l'équipe du CIRAD de Montpellier. Parce que ce qui se rencontre sur la vigne autour du bassin méditerranéen, on l'a aussi sur les agrumes, avec des problèmes de remontée de sel. Donc ils cherchent à avoir des porte-greffes et à tester des porte-greffes les plus tolérants au sel. Mais c'est vraiment quelque chose qui... On est vraiment sous tension, parce que pour l'instant, on n'a pas de réponse. Et puis on va aussi essayer, nous, de tester, par exemple, des cultures l'arachide. Hein. Ça a été testé il y a quelques années. Alors là, on a eu un problème de ravageur assez conséquent, donc les campagnols ont adoré nos arachides. Derrière, le problème, c'est qu'il faut prévoir aussi la commercialisation, la transformation, parce qu'il est bien beau de tester des choses, mais si derrière, vous n'arrivez pas à les couler, il y a ce côté économique qui est important. Même nous, qui sommes plutôt dans le test et l'expérimentation, derrière, si on n'arrive pas à montrer que c'est crédible économiquement, on n'arrivera pas à le transférer. Ouais,
c'est très pragmatique.
Voilà.
Quoi.
Et du coup, on travaille actuellement aussi sur un projet de culture de la salicorne. L'idée, c'était de travailler avec quelqu'un qui transforme des olives, qui veut utiliser la soude comme on l'utilisait il y a un siècle, donc issue des plantes qu'on appelle les soudes, hein, qui poussent en milieu très salé. La soude était utilisée localement pour faire des savons, mais aussi pour désamériser les olives, hein, pour enlever cette amertume. Et donc on est sur des petits tests de culture très de niche, hein, pour anticiper et voir un peu ce qu'on peut faire de ces terrains. Et puis il y a le pastoralisme aussi, hein, qui est quand même une voie qui... on pense assez fréquemment au label Les Moutons des Prés Salés de la baie du Mont-Saint-Michel. Je pense que là aussi, il y aura des terrains qu'on va être obligé de délaisser, qui actuellement sont de la vigne, mais derrière on va chercher à les valoriser sous une autre façon, et le pastoralisme en est une aussi. Ouais.
Voilà, la salicorne, donc, qui se prête très bien aux terres salées, c'est ça, hein,
alors oui, c'est vraiment une plante. Alors il y a plusieurs espèces, hein. Il y a toute une famille de plantes qui poussent en Camargue, mais curieusement en Camargue elle n'est pas du tout valorisée. Et alors que sur la côte atlantique, on en fait des condiments. Et là, effectivement, il y aurait un procédé industriel aussi à valoriser sur la transformation des olives et d'avoir vraiment un produit de niche.
En ce qui vous concerne, monsieur Henri, d'entendre, voilà, qu'il y a ce côté, oui, on fait des expérimentations, mais oui, il faut qu'il y ait du débouché. Ça vous donne... un intérêt pour la chose, puisque en étant bio, vous êtes plus dans un système plus conventionnel, entre guillemets. C'est un intérêt de voir qu'il y a des gens qui, voilà, ils ont une vision écologique, entre guillemets. Et je ne dis pas que vous n'êtes pas aussi dans l'écologie, hein, à votre niveau. Vous comprenez mon propos. Si vous dites ça va, ils ne sont pas hors sol, entre guillemets.
Non, mais il faut chercher, il faut être curieux. J'ai été élevé comme ça. Chaque génération de la famille a été curieux et allé voir autre chose. Moi, je suis la 4e génération de vigneron, mais 4e génération à avoir étudié ni œnologie ni viticulture. Ce qu'on m'a appris, c'est qu'il fallait être curieux, voir ce qui se faisait ailleurs. Il y a d'autres zones comme les nôtres avec les mêmes contraintes. Hein. Si on va dans le delta du Pô, on va retrouver la même chose. Donc voilà, donc cette curiosité, on l'a, on cherche des idées. On a beaucoup travaillé sur la vigne parce que c'est notre savoir-faire. Voilà, aujourd'hui, on a plein de variétés différentes. On a des variétés, on sait, qui résistent plus ou moins bien ou qui tolèrent plus ou moins bien le sel. Mais alors, pas que le sel, hein, le manque d'eau, la chaleur, la sécheresse, tout ça. Il y a plein de paramètres. Donc, on essaye de travailler avec tout ça. On a développé une grosse partie de notre vignoble aujourd'hui avec des cépages résistants, donc beaucoup moins d'impact avec les apports des intrants. Aujourd'hui, c'est des variétés sur lesquelles on sait qu'on peut au moins diviser par moitié les intrants. Peut-être pour certaines, on pourra ne plus traiter. Ça, c'est à voir, mais c'est encore de l'expérimentation. Il faut le voir sur la vie d'une plantation. Et une plantation, c'est une génération. Donc, ça se renouvelle à chaque génération. Donc,
bon, vous êtes optimiste voilà. Pour l'avenir ?
Ah ben évidemment, on est optimiste.
Pour la prochaine génération.
Ben évidemment, et on fait tout pour leur laisser un bel outil pour la suite et pouvoir eux aussi réfléchir à plein de nouvelles choses.
En ce qui concerne le domaine à Tillon, vous êtes aussi dans la transmission, puisque vous êtes là. Je me rappelle que votre fils mène hein, aussi le domaine. Alors, je ne sais pas si on dit à vos côtés, si on va dire la génération précédente fait un pas en arrière pour laisser la nouvelle s'installer. Voilà. Parlez-nous un petit peu de cette transmission et de cet espoir en l'avenir, justement, de la perpétuation du travail que vous avez réalisé.
Oui, évidemment. Pour moi, le but, c'est le passage du témoin, c'est vrai. Maintenant, est-ce à dire que ce sera fait automatiquement ? Je n'en sais trop rien parce que j'ai plusieurs enfants. Il y en a qui s'intéressent effectivement à la viticulture ou même à l'agriculture en général et les autres pas du tout. Donc, il me reste un espoir, c'est les petits-enfants. J'ai des petits-enfants qui ont dès l'âge de terminer leurs études. Et j'espère que l'un d'entre eux prendra la suite. Mais pour l'instant, ce n'est pas avéré.
Bon, mais en tout cas, on souhaite quoi qu'il arrive.
En tout cas, on essaye en tout cas de tout faire pour leur transmettre, comme l'a dit Julien, de pouvoir transmettre un outil de travail qui tienne la route et qui soit performant au moins autant que possible.
Bon, on va faire la réclame parce que moi j'ai envie de savoir ce que vous proposez. Hein. On n'en a pas parlé concrètement, les millésimes, les cépages, qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Allez, on commence avec le domaine à Tillon. Moi je connais votre blanc, enfin un de vos blancs.
Bon, eh bien, écoutez, c'est gentil. Alors, on ne fait pas que du blanc, on fait du rosé, du rouge aussi. Et en général, ces vins sont bien adaptés. Nouveau en cépagement. Alors c'est vrai qu'avec les nouvelles contraintes climatiques, on est bien obligé d'avoir une réflexion. Pour l'instant, je n'ai pas sauté le pas et j'en suis resté à nos cépages traditionnels qui ne sont pas tous d'ici d'ailleurs, puisqu'on a du Merlot, du Cabernet, du Chardonnay, puisque vous parliez du vin blanc. Mais on a aussi de la Syrah, on a aussi le Carignan, non, j'en ai plus. Mais on a quand même cherché c'était la mode à l'époque de faire des vins de cépage, et des vins de cépage qui étaient mondialement connus, comme le Merlot, comme le Sauvignon, etc. Donc je n'ai pas franchi le pas pour l'instant, on est en train d'y réfléchir, soit s'orienter vers des cépages résistants pour diminuer les intrants, les pesticides, soit au contraire, soit aussi parallèlement chercher des cépages qui soient résistants à la sécheresse. Et c'est là où M. Beck a évoqué les pistes, puisqu'il a, si j'ai bien compris, des cépages de toutes les parties du monde, et des parties du monde où il y a une sécheresse qui est peut-être encore plus grande que chez nous. Donc tout ça, c'est fait partie d'une réflexion à venir. Mais pour l'instant, on en est au stade de la réflexion.
L'île Saint-Pierre. Alors on a Tour du Propriétaire, je précise aussi que vous êtes un partenaire comme la Tour du Valla du festival.
Alors on a beaucoup de variétés de cépages, on a beaucoup de produits différents. Aujourd'hui je crois qu'on a une vingtaine de produits différents, donc avec des monocépages, des assemblages. Voilà, mais sur le village, là vous pourrez découvrir la boutique. On a une gamme de vins qu'on a développé récemment, c'est avec des petits degrés, ça s'appelle Folie Légère. Voilà, c'était peut-être une folie, mais ça marche plutôt bien. C'est donc des vins à faible degré, autour de 9-10 degrés, voilà. des vins friands, plaisants, des vins pour l'été à boire au bord de la Méditerranée.
Voilà, oui, on n'est pas à la recherche tout de suite de quelque chose qui vous enivre. Non, on veut déguster, on veut goûter la subtilité. En ce qui concerne donc le domaine alors du Petit Saint-Jean, je ne me trompe pas, hein, voilà. Dites-nous tout, qu'est-ce qu'on retrouve? Parce que là, vous êtes, vous, en polyculture, élevage, tout ça. Qu'est-ce qu'on trouve au niveau du vin, on va dire, en particulier?
Comme je l'ai déjà dit, on est donc sur une grande diversité de cépages, sur des parcelles toutes petites, hein, 3000 mètres carrés.
C'est 1200... Mais rassurez-nous, vous sortez quand même des bouteilles.
Ah bah oui, 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 l'objectif, justement, c'est d'aller jusqu'au bout, hein. Donc, les premières années, donc on a commencé à planter en 2016, on a planté... 1 hectare, en 2017 on a continué, et ça jusqu'en 2021, en terminant effectivement par un cépage résistant qui s'appelle le Floréal. Donc c'est des nouveaux cépages qui sont arrivés sur le marché il y a une dizaine d'années et qui permettent vraiment de limiter l'apport, même en bio, de bouillie bordelaise et de soufre, à tel point que derrière, en fait, vous faites une économie de produits, le sol s'en ressent mieux. Et nous, ce qu'on aime bien aussi sur ces cépages-là, c'est qu'on peut, à des moments donnés, refaire pâturer les vignes par nos brebis, tout de suite après la vendange, par exemple, ou même on a une petite technique où on va éclaircir, ça s'appelle effeuiller en fait, hein, un moment où les raisins vont se former, où on veut optimiser un peu l'apport de soleil. En fait, on va pouvoir faire passer les brebis très rapidement dans ces parcelles. Elles vont pas s'attaquer, enfin non, parce que le raisin est vert et donc pas
donc
du tout appétant.
Donc ça les intéresse pas.
Par contre, il y a une technique, il y a certains, notamment en Alsace, où on fait ça manuellement, et là on peut le faire de façon animale.
Donc c'est astucieux, c'est parce plutôt que ça engraisse les animaux et puis ça donnera
fait
de la bonne viande.
L'idée, c'est toujours d'avoir plusieurs ressources sur le même territoire. Et donc effectivement, on est aussi sur des cépages locaux, hein, parce qu'il y avait une toute petite parcelle en Merlot qu'on a conservée. La première année, on était un peu frileux, donc on a planté le Marcellan, du Grenache gris, du Grenache noir, une Marsanne et une Roussanne, même dans la même parcelle. On a mélangé ces deux cépages parce que traditionnellement elles peuvent se récolter ensemble. Et puis la deuxième année, on est parti effectivement sur des cépages plus méridionaux, hein, Tempranillo qui est un cépage espagnol, derrière de l'Alvarinho, un cépage portugais, du Touriga National qui est un cépage portugais aussi, mais qui lui a complètement été détruit par le sel. Et puis après, on s'est penché sur la Sicile avec un Nero d'Avola. Donc c'est un cépage rouge que vous avez l'habitude de boire dans les restos italiens. Mais nous, on le décline en rosé. Et donc là aussi, on essaye de travailler avec le Centre français du rosé, avec d'autres viticulteurs qui sont à même déjà de tester ces cépages qui ont de l'avenir. En fait, après, on n'a rien inventé, hein. On fait un peu ce que font maintenant les gens en Champagne, où ils vont planter du vin dans la région lilloise, voire en Angleterre. Donc tout ça par rapport au changement climatique. Nous, on teste des choses qui sont déjà éprouvées dans le sud. On les ramène par ici pour voir comment ils peuvent s'adapter, s'acclimater à notre pays. Et donc, bien sûr, depuis 2023, on vinifie sur place. Donc l'idée aussi, c'est de limiter l'impact carbone, hein. On a la chance d'avoir une propriété où on a eu on a pu faire le choix de vraiment mettre les vignes à côté des bâtiments. Et donc entre le moment où on récolte et où on transforme, derrière il y a maximum 500 mètres. On fait ça de façon instantanée, toujours à petite échelle. Et donc on a plutôt des vins de cépage aussi, voilà, on essaye de valoriser.
On peut venir chez vous, il y a un caveau, et où c'est, il y a un réseau de distribution.
Alors c'est ce qu'on avait un peu sous-estimé, c'est ce côté
commercial
marketing. Mais c'est vrai que là on a un enjeu important de vendre, de faire connaître nos produits. Donc on a quelques cuvées qui sont ici, hein, à la boutique. Et après, c'est vrai qu'on essaye vraiment d'avoir des événements. Pour l'instant, on a un caveau sur place, mais qui n'est pas ouvert tous les jours. Enfin, après, on utilise aussi les outils modernes pour développer les ventes et on espère effectivement arriver à terme à l'équilibre sur cette activité-là.
Je n'ai pas posé la question à vos camarades de jeu, l'île Saint-Pierre, c'est pareil, il y a un caveau sur place.
Il y a un caveau sur place qui est ouvert toute l'année.
Et pour le domaine à Tillon ?
Oui, également.
Bon, allez, viendez, comme disait l'autre. Moi, c'est comme plein d'autres domaines. Il faut aller à la source, ce qui ne veut pas dire que les revendeurs, les plateformes numériques, tout ça, ce n'est pas intéressant. Mais il faut aller voir un petit peu sur site, ne serait-ce que pour rencontrer des gens, parler de leur vin et déguster et repartir avec quelques flacons, bien entendu. À consommer avec modération. Ben oui, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Là, c'est la réglementation des médias, bien entendu, qui me fait dire ça. Merci, messieurs, en tout cas, de la richesse des propos que nous avons eus autour des micros de Soleil FM, vin et biodiversité. J'espère qu'on aura partagé avec nos amis auditeurs quelques-uns de vos enjeux et qui sont les nôtres aussi, puisque nous sommes habitants et consommateurs, bien sûr, de ce que vous produisez. À nos micros, je le rappelle, Julien Henry du domaine Lise de Saint-Pierre, Nicolas Beck du domaine du Petit Saint-Jean et pas du Petit Saint-Pierre, ça n'a rien à voir. Et puis enfin, monsieur Renaud Deroux du domaine de Latilon. Merci, messieurs. Au revoir.
Merci, au revoir. Merci de nous avoir écoutés.
Merci.